Chers catéchumènes, chers confrères, chers frères et sœurs, il nous est bon une nouvelle fois d'entendre cet évangile merveilleux, remarquable, de la rencontre de cette femme avec Jésus au puits de Jacob. Et pour ma part, je suis heureux de vous retrouver pour méditer cette parole avec vous et prier ensemble le Seigneur. Notre Père Saint Augustin a eu dans son commentaire de cet évangile une parole remarquable. Au fond, quand la femme se retrouve seule avec Jésus parce que tous les autres, un peu gênés ou impressionnés ou pas à l'aise, sont partis, et qu'il ne reste plus que la femme et Jésus, Augustin dit « Il ne resta que la misère et la miséricorde ». La misère de cette femme, la miséricorde, qui n'est pas seulement, si je puis dire, une qualité du Christ. Le Christ, le Fils du Père, est comme l'incarnation en chair et en os humaine de la miséricorde du Père pour nous. Et nous n'avons jamais fini de réaliser, de comprendre que tout ce que Dieu fait pour nous est miséricorde, c'est-à-dire don gratuit pour venir à notre aide. Tout l'Évangile, toute la parole de Dieu nous conduit à réaliser cela. Tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il est pour nous est miséricorde. Et le Christ est entièrement l'expression humaine réalisée dans son humanité, dans ses paroles, dans ses actes et au plus haut point dans son mystère pascal de la miséricorde du Père. Le Saint-Père François, dans l'année de la miséricorde en 2016, vous vous en souvenez peut-être, méditez cela. La miséricorde ne peut être une parenthèse dans la vie de l'Église. Elle en constitue l'existence même, qui rend manifeste et tangible la vérité profonde de l'Évangile. Tout se révèle dans la miséricorde, tout se résout dans l'amour miséricordieux du Père. Et je voudrais vous partager encore une autre clé d'entrée remarquable du pape François sur cet évangile. Jésus a regardé cette femme dans les yeux et il a lu dans son cœur. Jésus a regardé cette femme dans les yeux et il a lu dans son cœur. Il y a trouvé le désir d'être comprise, pardonnée et libérée. Il y a trouvé le désir d'être comprise, pardonnée et libérée. Pour méditer cela, frères et sœurs, je vous propose, il y aurait tant de choses à méditer dans l'Évangile, mais l'homélie serait une nouvelle fois trop longue, de retenir trois paroles de l'Évangile. Pas seulement pour que nous comprenions ce qu'il y a dans l'Évangile, mais pour que nous comprenions à la lumière de l'Évangile ce qu'il y a dans notre vie chrétienne, dans le rapport au Seigneur et ce qu'il fait en nous, ce qu'il veut pour nous. Première parole, donne-moi à boire. C'est cette chose tout à fait étonnante qui doit nous faire comprendre comment Dieu s'approche de nous. C'est lui qui est la source et c'est nous qui avons soif. Et il commence par nous dire « Donne-moi à boire ». Ce n'est pas la logique la plus rationnelle apparemment. Mais de quoi s'agit-il ? Dieu respecte infiniment notre liberté. Jamais il ne veut nous forcer à quoi que ce soit. C'est un mystère en réalité bouleversant qui manifeste sa miséricorde et sa tendresse infinie pour nous. Il est là comme la source, nous sommes à côté comme ceux qui mourront de soif et il ne s'impose pas à nous. Il frappe à la porte de notre cœur par étapes au long de notre vie, jamais il ne s'impose, jamais il ne force. C'est bouleversant. Pour ma part, j'aurais envie de dire, Seigneur, frappe plus fort que pour me réveiller plus fort, parce que tu le vois, j'ai de la peine à ouvrir mon cœur. Et c'est ça l'objet de cette demande. Donne-moi à boire. Il fait appel à l'amour, à la charité de cette femme, qui pourtant est prise dans des grandes difficultés de vie, où elle sait elle-même qu'elle s'est laissée entraîner sur un chemin qui ne conduit pas au bonheur. Non seulement Jésus ne la condamne pas, mais il fait appel à sa bonté, à son amour, à elle. Donne-moi à boire. Nous devrions essayer de repérer dans notre vie, passée et présente, comment, à travers toutes sortes de sollicitations qui nous sont faites, c'est Jésus qui veut ouvrir davantage notre cœur et qui nous dit « Donne-moi à boire ». On nous demande un service, on nous sollicite pour ceci ou cela, et notre conscience comprend qu'on pourrait faire tel geste de bonté, telle parole de vérité utile. C'est Jésus qui nous dit « Donne-moi à boire ». Il veut ouvrir notre cœur à son amour à lui dont nous avons besoin. C'est une pédagogie étonnante qui est la pédagogie de l'amour et de la miséricorde. Jésus n'abaisse jamais. Jésus non seulement respecte notre liberté, mais il veut nous faire grandir dans notre propre liberté et dans notre propre dignité. Sa présence même, pour peu que nous nous ouvrions de notre cœur à lui, nous rend meilleurs et nous appelle au bien. Deuxième parole, c'est celle que cette femme, condamnée et méprisée par tous, ose dire, quelque temps après la rencontre au même, quelque temps après la rencontre de Jésus. Essayons de mesurer cette femme de mauvaise réputation qui ose rencontrer en plein jour ce prophète, le Messie, on ne sait pas très bien encore qui c'est, un homme au milieu du village. C'est l'objet de la réprobation de tous, hein. Elle ose, elle est tellement transformée et libérée qu'elle ose leur parler après à tous et leur faire, je ne dis pas la leçon, mais à les inviter. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Elle n'a aucune honte que Jésus lui ait manifesté la vérité de sa propre existence, qui n'est pas très brillante. Il faut, me semble-t-il, en retenir deux ou trois leçons. La première, rien ne peut se construire en dehors du roc solide de la vérité. Nous sommes dans une époque, malheureusement, où, à force de chercher le consensus sur tout, on perd le sens du fondement de la vérité. La vérité, mais ce n'est pas nouveau en soi, devient l'objet d'arrangement. C'est terrible. Comme si on avait peur de la vérité. Et nous-mêmes, quelquefois, nous avons peur de la vérité sur nous-mêmes. Jésus, seul, parce qu'il est Dieu, et parce que Dieu seul nous connaît réellement, parce qu'il nous a fait, parce qu'il nous aime, parce qu'il connaît tout dans sa vérité et dans son amour, et parce qu'il nous attire vers lui, il nous a fait pour lui, Jésus seul, Dieu seul, peut nous révéler la vérité la plus sûre, la plus large, la plus profonde, la plus pleine, si je puis dire, de notre être. Oui, nous sommes des pécheurs, mais nous sommes surtout des images de Dieu, des enfants de Dieu, destinés à partager sa propre vie de lumière et de joie, et qui avons besoin d'être libérés de tout ce qui nous y entrave. Et ça devrait être pour nous une joie de reconnaître ce qui entrave l'amour de Dieu en nous. L'identifier, c'est commencer d'en être libéré. Nous avons peur parce que nous manquons de foi et en Dieu, dont nous craignons un jugement sévère, alors que nous n'avons rien à craindre. Il nous aime, il n'est qu'amour. Je ne veux pas parler à sa place, ça serait blasphème, mais il ne peut pas pas nous aimer. Et l'amour ne s'oppose jamais à la vérité. Nous avons besoin de notre propre vérité depuis le regard de Dieu, parce que c'est libérant, parce que nous comprenons et ce qui nous entrave et la réalité merveilleuse que Dieu a mise en nous, qu'il veut libérer, faire jaillir à nouveau. On m'a dit que pendant le carême, il fallait prêcher sur la confession. Donc j'obéis aux confrères et je vous en dis un mot. Une des grandes grâces de la confession, c'est de connaître notre propre vérité. Dans le sacrement du pardon, le fruit n'est pas que le pardon de nos fautes. Avec le pardon de nos fautes viennent beaucoup de grâces dont nous avons extrêmement besoin. L'une d'elles est connaître de manière juste notre propre vérité depuis le regard de Dieu. C'est une vérité libérante qui nous fait du bien. Et Dieu, lui, parce qu'il nous aime, ne craint pas de nous dire ce qui est bon pour nous. Heureusement, enfin c'est un peu idiot à dire, mais heureusement qu'il y a quelqu'un capable de nous dire la vérité, et c'est lui qui a à la fois ce courage et cet amour. Nous avons besoin de nous situer, nous avons même besoin d'être aidés à évaluer nos fautes. Parfois, nous regardons comme de peu d'importance des choses un peu plus graves qu'il n'y paraît, ou quelquefois, nous nous faisons de montagnes de choses qui ne sont pas si graves. Et nous avons besoin de mettre tout cela en perspective de libération, de guérison. Il me vient une magnifique expression de notre Père Saint-Augustin, une nouvelle fois, dans un de ses traités après sa conversion. Il se parle à lui-même et il se dit à lui-même « Fais, invente la prière la plus profonde et la plus courte. » Et Augustin invente cette prière à dire à Dieu « Que je me connaisse, que je te connaisse. Que je me connaisse, que je te connaisse. » C'est-à-dire « Seigneur, donne-moi la lumière, ta lumière. » pour te connaître, toi, et me connaître, moi, dans ta lumière. Qu'est-ce que la foi, frères et sœurs ? La foi est quelque chose de la connaissance aimante que Dieu a de lui-même et de toute chose dont nous sommes rendus participants. Par la foi, nous ne connaissons pas non seulement... seulement quelque chose de Dieu, quelque chose des autres, mais de nous-mêmes aussi. La connaissance la plus profonde de nous-mêmes, c'est la foi qui nous l'offre, la participation au regard de Dieu sur nous. Et nous le comprenons bien, cela ne peut être que réalisé dans l'expérience de la rencontre de Dieu. Et les sacrements tous sont des rencontres, des touchés, des présences, des touchés de Dieu à notre âme. Et à l'intégralité de notre être pour le changer. Dernière parole que je vous propose de méditer, c'est celle de Jésus à cette Samaritaine, qu'il annonce dès le début d'ailleurs, Jésus n'annonce pas les bonnes choses qu'à la fin. Dès le début, il montre la grandeur de ce qu'il veut donner. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Voilà une parole spécialement pour les catéchumènes. Comme nous, quand nous avons été baptisés, nous avons été plongés dans l'eau. Nous avons été plongés dans celui qui est la source de la vie éternelle pour nous, le Christ, dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. Il est la source. Il n'y en a pas d'autre. Mais par le baptême, nous allons devenir nous aussi des sources. Ah bon, moi je ne me prends pas pour une source, c'est le Seigneur. Que faut-il comprendre ? Quelle est cette eau ? La réponse, me semble-t-il, est dans la lettre aux Romains. L'espérance ne déçoit pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'amour de Dieu, on pourrait traduire l'amour qu'est Dieu. Dieu est amour, dit ailleurs Saint Jean. Dieu est amour. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre cœur. Par qui ? Par l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint est l'amour même du Père et du Fils. Le don même de l'amour entre le Père et le Fils qui nous est fait à nous aussi. Et qu'il nous donne, autrement dit, cette eau qui jaillit en vie éternelle. C'est l'amour de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous entraîne dans ce qu'il est lui-même. L'amour qui se donne, l'amour qui jaillit comme une source. L'amour qui entraîne au don, l'amour qui est communion, qui est réalisation de soi-même dans le don de nous-mêmes et qui s'achève dans la communion en Dieu et avec nos frères. Nous devenons des sources de vie éternelle, des sources dérivées de l'unique source. Cette source en nous nous emmène, nous entraîne, nous met en communion déjà avec la vie éternelle. Et elle fait que nous devenons pour d'autres, par déversement spirituel, des sources de vie éternelle, des sources de foi. Non pas que la foi vienne de nous, mais parce qu'à travers nous, cette eau se répand dans le monde. C'est cela la mission de l'Église, frères et sœurs. C'est qu'à travers nous se déverse l'eau qui vient du Christ, l'eau qui est l'Esprit Saint. Alors demandons à cet Esprit Saint de nous faire reconnaître comment le Christ lui-même veut libérer notre cœur et nous demande à boire. Comment il nous offre la vérité la plus profonde que nous avons besoin de recevoir pour être libérés. Et comment il nous entraîne à vivre de son amour pour devenir nous aussi des sources de vie éternelle. Amen.